Qu'est-ce que l'impression tridimensionnelle ? De plus en plus présente dans nos vies, il est devenu courant de voir nos objets du quotidien être fabriqués par nos soins, et ce, à l'aide d'imprimantes 3D. Une technologie récente suscitant notre interrogation sur des questions d'éthique et même d'enjeux de santé, ou tout simplement sur ses possibilités effectives de production. Toutes ces questions, nous tenterons d'y répondre aujourd'hui dans ce troisième numéro du Labomatique avec la présence de Monsieur Jean-Guillaume Gourdon, enseignant de sciences industrielles à l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes.
Le Labomatique,
l'émission scientifique.
Nous sommes à l'INSA, nous entrons au bâtiment 9, là où se trouve Monsieur Gourdon, qui a lancé ce matin, m'a-t-il dit au téléphone, une impression 3D.
Bonjour.
Je suis Jean-Guillaume Gourdon, enseignant de sciences industrielles à l'INSA Rennes. On entend une buse d'impression 3D qui est en train d'imprimer des pièces. Une imprimante 3D, c'est une machine qui va ajouter de la matière pour reconstruire un volume en 3 dimensions afin d'obtenir une pièce. Elle est parallépipédique,
blanche,
avec une vitre et une interface homme-machine sur laquelle on peut lancer l'impression et avoir un certain nombre d'indicateurs sur la quantité de matière restante, sur le temps restant par exemple au niveau de l'impression. Alors on a sur cette machine-là une enceinte thermorégulée à 80 degrés à peu près et une buse d'impression qui va fondre un fil thermoplastique pour reconstituer une tranche de la pièce et l'addition de ces couches successives va permettre de reconstruire le volume 3D de celle-ci.
Qu'est-ce que vous imprimez là ?
Des gobelets pour vérifier l'empilabilité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, du gobelet.
Alors là, à ce que je vois, ça ressemble plus à des capsules, ce sont des débuts de gobelets, on n'a que le fond. Vous avez lancé l'impression à quelle heure ?
Alors on a lancé l'impression à 14h et on a 13h d'impression. Donc ça sera terminé demain matin. Et ensuite, il y aura le lavage des pièces pour enlever tout ce qui est échafaudage, donc le support. Les parties qui seront en l'air à un moment donné pendant la construction doivent être soutenues par de la matière qu'on appelle matière support. Et ce support, il est enlevé une fois que la construction est terminée.
Quel type de matériaux vous avez utilisé ?
Alors, cette machine-là fonctionne avec des matières plastiques. Il y a d'autres technologies qui emploient d'autres types de matières. Des plastiques aussi, des résines photosensibles, des matières métalliques. Voilà, une matière aussi de type béton pour les nouvelles technologies d'impression 3D qui arrivent aujourd'hui dans le monde.
Avec quelle matière il n'est pas possible d'imprimer ?
Je ne sais même pas si je suis capable de répondre à la question, mais je pense qu'aujourd'hui, quasiment tout est imprimable. Ou presque.
Alors, ou presque, qu'est-ce qu'on ne peut pas imprimer ?
Je dirais presque tout est imprimable. Dans les nouvelles technologies, ils espèrent imprimer des organes humains. Donc la matière première, je ne pourrais pas la caractériser aujourd'hui, je ne sais pas quel est le type de matière qu'ils utilisent, mais on peut tout imaginer aujourd'hui comme matière à imprimer. Il ne reste plus qu'à développer le process d'impression pour pouvoir imprimer une matière qui n'existe pas à l'heure actuelle. Est-ce que vous voulez voir le tranchage d'une pièce ?
Ah oui, avec plaisir. On va se mettre devant l'ordinateur.
Il l'idée, c'est de voir le traitement de la pièce. Donc l'objet 3D est défini. On l'importe dans un logiciel qui va nous permettre de générer les trajectoires de l'imprimante sur chacune des couches qui vont être ensuite reproduites par l'imprimante.
Hop. Alors, nous avons devant nous la modélisation en 3D d'un gobelet avec un quadrillage sur une de ses faces.
C'est ça. Donc là, ça représente le volume d'impression de notre imprimante. Ça nous permet dans un premier temps de voir si la pièce 3D rentre dans ce volume-là pour savoir si on est capable de l'imprimer. Les gobelets sont imprimés, on va voir à quoi ça ressemble. Je prends le gobelet numéro 1. Donc voilà le gobelet. Donc c'est ici qu'on va venir régler l'épaisseur de la couche. Donc ça va jouer sur la finesse de la pièce. Une des grandes problématiques de l'impression 3D, c'est le sens d'impression. La hauteur de la pièce va avoir une influence sur le temps d'impression, la qualité de la pièce.
On a un gobelet blanc devant nous. Selon la perspective qui est sélectionnée, on peut modifier certains paramètres.
Donc là, j'ai choisi une orientation de construction. Si on vient zoomer sur la pièce, qu'est-ce que l'on observe ? Ben, on observe les différentes strates de la pièce qui vont être reconstruites.
Sur ce gros plan du gobelet, donc, il est grossi et c'est un peu comme les pixels sur une image. Nous avons, pour l'impression 3D, cette fameuse visualisation des superpositions des différentes couches. Et donc, une seule strie, une seule ligne, c'est combien de temps d'impression ?
Alors là, c'est difficile à estimer.
Parce que là, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Et puis, on voit aussi le support. Hein. Ce sont les traits blancs qui matérialisent, en fait, l'échafaudage qui va soutenir les couches qui vont se retrouver en l'air.
Il y a marqué au cul du gobelet N-E-W-C-Y.
Donc, c'est le nom du projet, je suppose, des étudiants. Hein, mais on peut avoir une finesse au niveau des détails. Et ici, il y a une empreinte qui est réalisée sur le fond du gobelet, qui sera visible quand ils seront nettoyés. Sur ce modèle-là, on peut fabriquer 6 gobelets en même temps.
Ce qui est le cas, là, puisqu'il y en a 6.
Voilà. Et 6, par contre, il y en a 3 différents.
C'est pour manger, après ? Vous invitez les gens ?
Non, pas du tout. On va pas faire l'apéro dans cela. Une fois que les pièces sont positionnées donc, sur le plateau d'impression, on nous donne la quantité de matière qui va être consommée.
Donc là, 95,46 cm3.
Et puis le temps d'impression estimé, qui sera recalculé lorsque le fichier sera envoyé à la machine. Donc là, on n'est pas sur 22 heures, hein, parce qu'il y a un recalcul après, plutôt sur 14 heures par rapport à l'impression qui est en cours ici. Il suffit d'appuyer sur imprimer pour lancer l'impression.
Come on down. Quel étrange appareil, professeur!
Voilà, je place la pâte ici. Les modèles là, il ne reste qu'à brancher le courant. Vous voyez comme la pâte se transforme? Et hop!
Merveilleux!
Des chapeaux neufs! Félicitations, professeur!
Oh oui, je dirais même plus! Professeur, chapeau!
Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le moyen de stabiliser les reproductions.
Est-ce que c'est viable, un matériel que l'on fabrique à partir d'une imprimante 3D? Est-ce que ces gobelets seront comme tous les gobelets en plastique que l'on trouve sur le marché? Ce sont des gobelets jetables, ils sont pliables, ils ont une durée de vie déterminée ou indéterminée? Ces gobelets-là, ils sont là pour valider un design. Donc ils n'ont aucune fonctionnalité et surtout que la matière plastique n'est pas propre à la consommation de denrées alimentaires. Après, on peut avoir des prototypes qui vont permettre de vérifier un certain nombre de fonctionnalités, soit du produit lui-même, soit sur une ligne d'assemblage, par exemple, pour qu'un opérateur puisse s'exercer à l'assemblage d'un produit sur un autre dans une future production de pièces, par exemple en automobile. Et puis on a les prototypes qui, eux, nous permettent d'avoir directement les outillages afin d'obtenir les pièces par la suite. Et là, on parle de moules d'injection plastique obtenus en impression 3D dans lesquels on va injecter la future pièce en plastique et on va pouvoir obtenir une petite série d'une centaine de pièces.
Combien existe-t-il de méthodes d'impression?
Alors, le principe de base est toujours le même, on va ajouter de la matière. Dans le process qu'on est en train de voir, on utilise un fil qu'on va fondre pour le déposer afin de reconstituer l'intégralité du volume. On peut utiliser également de la résine liquide que l'on va solidifier à l'aide d'un laser UV et reconstituer les différentes couches de la pièce. Et la dernière grande famille, ça va être des poudres que l'on va agglomérer avec un laser un petit peu plus haute puissance afin de reconstituer toujours pareil le volume.
Là, c'est une impression à fil.
Dépôt de fil fondu, exactement.
Alors, à quoi ça ressemble à un dépôt de fil fondu? Parce que là, je vois pas de fil forcément. Alors. Ils sont invisibles à l'œil nu. Alors.
Voilà le fil.
C'est une bobine de fil blanc.
Il fait à peu près 1,5 mm de diamètre. Ce fil, il va rentrer dans un liquéfieur, une partie très chaude, à peu près aux alentours de 300 degrés. Le fil est fondu et l'arrivée du nouveau fil dans ce liquéfieur va pousser, par l'intermédiaire d'une buse, le fil ramolli à l'extérieur et va permettre de poser la matière au bon endroit. C'est l'initial de la matière avant impression. Le système qui vient prendre le fil, qui le pousse dans le liquéfieur, on le voit là, il y a les petites dents, qui vient prendre le fil. Donc le fil est entraîné par les rouleaux et poussé dans le liquéfieur. Et là, vous avez le début du changement d'état de la matière. Mm-hmm. Il devient pâteux à l'intérieur. Le rouleau, quand ils vont pousser le fil, va pousser la matière, comme un piston à l'intérieur d'une seringue. Et ensuite, à la sortie, la buse est beaucoup plus petite, elle fait 0,25 mm de diamètre, pour faire sortir le fil de cette taille-là. Et on peut obtenir toutes les formes que l'on souhaite par la suite. On vient durcir de la matière liquide pour la déposer après, elle se durcit sur la couche. Ou alors on vient agglomérer de la poudre. Ce sont les trois familles principales d'impression 3D.
On peut imprimer pour la technologie, on peut imprimer pour quel autre type d'entreprise?
Alors, les domaines d'activité liés à l'impression 3D, ils sont vraiment assez vastes. On a les transports de manière générale, hein, l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire aussi. On a le médical, avec des impressions de vertèbres, par exemple. Dans tout ce qui est marketing, conception de produits, par exemple, validation des formes de produits. Dans le marketing, pour tout ce qui est emballage, par exemple. On y croit qu'il doit y avoir d'autres secteurs industriels, mais voilà pour les principaux, en tout cas.
Mais alors, il y a beaucoup de demandes, la demande afflue de plus en plus, du moins pour le marché rennais.
C'est un marché qui pèse plus de 3 milliards d'euros à l'heure actuelle, ou aux alentours de 3 milliards d'euros, et les prévisions vont vers une augmentation de 20% par an. Et ouais, les besoins sont de plus en plus importants dans le secteur industriel aujourd'hui.
Mettons, comble de malchance, je me fais arracher une des deux mains,
j'ai besoin d'une main. Je demande à ce qu'elle soit imprimée en 3D. Il va me falloir débourser combien ?
Alors ça, ça rejoint certains projets sur lesquels on travaille à l'heure actuelle avec nos étudiants. On imprime une main mécanique dont les mouvements sont obtenus par un mouvement de l'épaule valide du malade. On nous a demandé de rentrer dans une enveloppe budgétaire qui est inférieure à 400-500 € pour donner un ordre de grandeur. Donc on pourrait imaginer qu'on puisse redonner la mobilité à un patient dont la main a été arrachée pour moins de 400 €. Main entièrement mécanique. L'idée, c'est qu'en moins de 48 heures, la main est imprimée, est assemblée. 48 heures après, elle est montée sur le patient ou proposée au patient et la rééducation ou en tout cas le maniement de cette nouvelle main peut commencer.
Mais il faudrait qu'elle ait des propriétés de cognition avec le cerveau.
Alors, pas pour les mains sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle. Elle n'est pas équipée électriquement pour aller chercher les informations sur les moignons pour essayer ensuite de commander des moteurs pour commander les mouvements de la main. Nous, on est sur une commande très simple avec un câble qui est relié à un mécanisme à l'intérieur de la main qui a été prototypé et qui permet de réaliser des mouvements simples. Donc serrer les doigts, réaliser une pince, montrer avec des orientations du pouce qui se font manuellement avec la main valide, l'autre main. À mon avis, on peut tout faire. Après, il faut la bonne machine qui fabrique à peu près 200 par 200 par 150 mm. On va fabriquer des petites pièces. On a une machine qui coûte à peu près 25 000 € TTC. Si on imagine fabriquer une pièce plastique, mais de plus grande taille, par exemple un tableau de bord de voiture, il faut s'imaginer derrière la taille de la machine, et là on est sur des coûts qui sont beaucoup plus grands. Donc je ne les ai pas en tête, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros la machine. Donc tout dépend, on va dire, de la taille de la pièce, de ce que l'on veut faire du prototype. Ce sont les deux principales questions qu'il faut se poser avant de passer à l'impression. Mais je dirais, ouais, on peut quasiment tout faire. Et les nouvelles technologies d'impression 3D permettront de faire encore plus de choses.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
J'ai besoin de vêtements et je veux m'acheter un nouveau pull. On peut faire un pull.
Alors, on peut pas faire un pull, on n'a pas la finesse à l'heure actuelle. Néanmoins, le milieu de la mode s'est un petit peu accaparé les techniques d'impression 3D. Et on voit aujourd'hui certains créateurs qui créent... Alors, vous avez des chaussures, vous avez des robes, vous avez des chapeaux, enfin, vous avez toutes sortes de vêtements ou d'appareillages qui sont réalisés en prototypage rapide et qui sont utilisés après sur des mannequins pour des défilés ou pour présenter certains aspects du métier, on va dire.
Est-ce que les matériaux utilisés sont résistants sur le long terme aux maltraitances du quotidien, par exemple la pluie ?
Tout dépend du prototype. On a des prototypes qui sont faits par exemple en cire, qui eux sont là juste pour valider des designs, des formes ou des concepts. Donc là, ceux-là, on s'imagine bien que la cire elle ne permet pas une tenue mécanique par rapport à des sollicitations. Sur des pièces en plastique comme celles que l'on va imprimer, on atteint 80% à peu près de la résistance mécanique du même gobelet s'il était fait en injection plastique par exemple. Pour les pièces imprimées avec de la poudre métallique, on est légèrement en dessous des propriétés mécaniques du même matériau métallique s'il était par exemple usiné avec des procédés d'usinage, par exemple.
Cette poudre mécanique, comme tous les autres matériaux, est-elle bonne pour la santé ? Est-ce qu'on retrouve chez certains matériaux des problèmes de toxicité ?
Justement, c'est un des grands débats à l'heure actuelle sur l'impression 3D. Les émissions de gaz liées au changement d'état de la matière, ça, la machine qu'on est en train d'écouter est un bon exemple. On a des vapeurs de plastique qui vont s'évaporer, qui peuvent être néfastes pour la santé. Et sur les poudres métalliques, comme on a quelque chose qui est très volatile, il est dangereux d'avoir des nuages de poussière qui contiennent éventuellement ces poudres-là. Donc il y a des précautions à prendre lorsqu'on va manipuler ce genre de matière pour l'impression 3D.
Et sur ce que l'on doit et sur ce que l'on ne doit pas faire, par exemple, un exemple, est-ce que vous recevez des commandes ?
Nous, en tant qu'établissement public, c'est un matériel pour l'enseignement principalement. Donc on ne fait pas d'impression, on ne fait pas de prestations extérieures. Après, c'est plutôt, on pourrait imaginer que je suis un particulier qui veut monter une boîte, j'achète plusieurs imprimantes 3D, pardon, et je propose un service d'impression à des industriels. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là, hein, elle est surtout pour des projets, puis pour aborder cette technologie-là auprès de nos étudiants.
Donc ce particulier, s'il a envie de venir pour commander une arme de poing, par exemple, je suppose que l'accueil sera assez glacial.
Il y a des questions d'éthique, parce qu'il y a le problème du copyright, donc j'arrive avec la modélisation d'un objet dont la conception ne m'appartient pas. Est-ce que j'ai le droit de l'imprimer ? La réponse est plutôt non, hein. Il faut avoir les droits d'auteur pour pouvoir imprimer cette pièce-là. Le deuxième aspect, après, il y a une question d'éthique. Certaines vidéos sur le net montrent l'impression d'une arme de poing. Après, c'est pas très rigoureux, très sérieux d'imprimer ce genre d'objet.
L'impression 3D tend à se démocratiser, tout le monde pourra avoir son imprimante chez soi et faire une lampe de chevet ou n'importe quoi d'autre.
Alors la réponse est oui, certaines imprimantes sont commercialisées à l'heure actuelle pour le grand public et on pourrait imaginer, suite à la modélisation d'un objet, la réalisation de cet objet dans son salon et ensuite son utilisation quelques temps après son impression.
Quelle est la fourchette de prix pour une imprimante 3D ?
Pour une imprimante 3D, on va dire personnelle, il faut compter entre 2000 et 4000 euros à peu près. Ça dépend de sa constitution, ça dépend de plein de choses. Et en fait, ce qui coûte cher sur une machine, c'est le nombre de moteurs.
Alors, on va revenir vers la machine. Où est-ce qu'on en est là ? Bon, ça a légèrement grandi. Les gobelets ne ressemblent pas encore à des gobelets. Où est-ce qu'on en est ?
Là, depuis le temps que l'on échange tous les deux, on a gagné peut-être 2 mm par rapport à la hauteur de construction. Donc là, il reste à l'heure actuelle 10 heures d'impression pour obtenir le gobelet. Le temps total estimé était de 13h30 au début. Donc on est encore loin du résultat final.
Parce que je vois qu'il y a 21% de terminé sur l'écran affichage. Est-ce que ces machines présentent des défauts ? Parce que sur une trop longue utilisation, on pourrait ne pas compter sur elles.
Alors, c'est pas forcément lié sur sa durée d'utilisation. Je dirais les défauts, ils sont liés au procédé en lui-même. Parce qu'on réalise la pièce couche après couche. Et donc, une fois que la pièce est terminée, on va observer des escaliers sur celle-ci. On a l'impression de voir des stries sur la pièce, en tout cas en laissant, en passant l'ongle sur cette pièce-là. Et donc, ça oblige à faire des opérations de finition pour que la pièce soit lisse et présente un aspect particulier.
Là, j'entends qu'elle est en état de pose.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait ?
Quand elle est en pose comme ça, on a un changement de matière, et puis on vient essuyer les buses à l'aide d'une brosse, on vient essuyer les buses d'impression pour être sûr que la première couche, la première des poses soit propre. Voilà. Donc à chaque changement de matière, on a cette pose.
Là, la buse tourne autour des gobelets.
En fait, quand la machine a besoin de changer la matière, elle va à un endroit particulier de la machine, et puis ensuite, elle vient nettoyer la buse pour déposer correctement la matière qui a été sélectionnée, et ainsi de suite. Et sur chacune des couches, il y a l'alternance matériaux-support, matériaux de la pièce.
Vous vous êtes doté de cette machine-là il y a combien de temps à l'INSA ?
Il y a bientôt 2 ans qu'on l'a, cette machine, et elle permet de répondre à nos problématiques de projet en spécialité génie mécanique et automatique.
Et sur Rennes, êtes-vous la seule institution à posséder une imprimante 3D ?
Alors non, loin de là, l'ENS Bretagne possède un pôle de prototypage rapide avec plusieurs technologies d'impression 3D, dont celle que l'on est en train de voir.
À l'échelle rennaise, c'est une activité qui a débuté quand ?
Au niveau de l'ENS Bretagne, ça fait plus de 10 ans, ça fait même plus de 15 ans.
Est-ce que c'est une activité qui est encouragée ? Vous prévoyez d'obtenir une deuxième imprimante ? Quels sont les projets de l'INSA ?
Ça serait éventuellement d'avoir une autre technologie d'impression 3D qui permettrait de répondre à nos besoins. Pour l'instant, l'imprimante que l'on a répond largement à nos besoins d'enseignement et de prototypes au niveau des projets industriels.
Est-ce que vous formez des gens qui seront aptes plus tard à pouvoir maîtriser complètement une machine de ce genre ? Est-ce que l'impression 3D permet de créer un métier ?
Je pense pas, parce que ça reste une boîte noire comme l'imprimante qui imprime sur du papier, tout simplement, où on va via l'éditeur de texte lancer une impression et puis on récupère sa copie après. C'est aussi simple que ça, une imprimante 3D. Après, l'idée, c'est de donner peut-être une coloration à nos ingénieurs, à leur montrer quelles sont les problématiques autour de l'impression, leur montrer un petit peu les concepts. Mais on s'arrête là. L'idée, c'est pas d'en faire des spécialistes de ces procédés.
Avant de partir, vous vouliez montrer quelque chose ?
Je vais vous montrer des pièces réalisées en impression 3D par nos étudiants.
Bah, allons-y.
Donc voilà quelques pièces réalisées en impression 3D. Ici une pièce de démo qui est une aube de turbine. Ici des pièces qui sont utilisées pour faire de la simulation de trajectoire de palpage pour la métrologie.
Là, c'est des pièces qui ne nous parlent pas trop, ce sont des pièces destinées à la mécanique finalement.
Alors ça, à la base, nos étudiants étudient en fait l'industrialisation d'une pièce. Et donc il faut garantir que cette pièce est conforme, donc il faut la mesurer. Et pour préparer en fait le contrôle de cette pièce-là, on a imprimé une pièce 3D pour préparer en fait la machine qui va nous permettre de faire le contrôle de la pièce. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir avec la pièce qui a été usinée et venir réaliser les trajectoires pour obtenir un nuage de points de la pièce. Cette pièce-là devient celle-ci.
Alors, je ne saurais pas du tout en décrire la forme. Il y a une sorte d'embout. Elle est métallique, grise. Je peux la toucher ?
Oui, allez-y.
Oui. Alors, c'est en acier.
Oui, c'est en acier. Et le nom de ce type de pièce, c'est un vilebrequin. Les connaisseurs sauront... à quoi ça sert ? C'est dans les moteurs à explosion, par exemple, ou la transformation de mouvement.
Moteur à explosion, donc ce sont des pièces qu'on peut retrouver sur des avions de chasse ?
Non, peut-être pas sur des avions de chasse, c'est une pièce de démonstration, mais le vilebrequin est une pièce courante dans tout ce qui est motorisation.
Et en blanc, nous avons ?
Des pièces plastiques imprimées. Donc voilà le résultat d'une impression.
Cette fois-ci, très légère.
C'est ça. Pas du tout la même matière, surtout que celle-là, elle a été imprimée et l'intérieur est creux.
C'est solide ?
Oui, dans la manipulation, oui. Par contre, après, si on venait forcer un petit peu dessus, on verrait qu'à l'intérieur, c'est plutôt creux. On sent bien les strates quand on passe l'angle dessus, les différentes couches de matière sur cette jante de voiture radiocommandée. Voilà.
On va aller faire un point sur ce qui se passe avant de partir. Alors, on en est où ?
Donc là, pas plus. 1 mm de plus ou 2 mm de plus par rapport à notre dernier point. On a 23% de l'impression qui est terminée. Il nous reste 10 heures d'impression avant d'obtenir les pièces au petit matin.
Tout en sachant que là, notre conversation est en fait montée, le temps en réalité, auditeur, est beaucoup plus long.
Bon, on va laisser travailler, on y va ?
Vous pouvez dormir quand même, tranquillement.
Oui, l'imprimante travaille toute seule, elle va travailler toute seule cette nuit. Moi, je reviens que demain matin pour récupérer les pièces.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Le troisième numéro du Labomatique s'achève. Il était question aujourd'hui de l'impression tridimensionnelle avec monsieur Jean-Guillaume Gourdon, enseignant de sciences industrielles à l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes. Nous le remercions donc pour sa présence et ses réponses éclairées à nos multiples questions. L'extrait sonore entendu en milieu d'émission était une scène extraite de Tintin et le lac aux requins, long métrage d'animation franco-belge sorti en 1972, où les personnages bergers s'extasiaient devant ce qui s'avérait être déjà un prototype d'imprimante tridimensionnelle. Sachez que le Labomatique est disponible en différé sur le site radiocampusrennes.fr. À bientôt et n'oubliez pas de rester curieux.